Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être venus aussi nombreux ce soir pour la présentation du dernier ouvrage de Raphaël Glucksmann, Notre France, Dire et aimer ce que nous sommes, publié aux éditions Alary, qui fait suite à votre précédent ouvrage, donc paru en 2015, Génération Gueule de Bois, qui était un manuel de lutte contre les réacs. Avec ce livre, Notre France, donc, vous racontez à vos lecteurs une histoire oubliée de la France humaniste et cosmopolite. Vous partez d'un constat assez simple. C'est le début de votre ouvrage d'ailleurs. Pris individuellement, les Français sont optimistes sur leur situation personnelle, mais très pessimistes sur la question de l'avenir de leur pays. Ce que vous nommez maladie française, vous considérez d'abord que c'est une maladie mentale ou spirituelle avant d'être matérielle, et que malheureusement tous les défis à relever deviennent des problèmes existentiels, que cela soit sur la question de l'accueil des réfugiés, quand bien même nous n'accueillerons que 60% de moins que ce que l'Allemagne se propose d'accueillir, et que la question de la construction européenne, de l'immigration, de la mondialisation devient des problèmes irrésolubles. Ma première question sera la suivante. Que s'est-il passé pour que la France des Lumières, celle de 1789, celle de 1848, de 1870, une France ouverte et universaliste, se soit refermée sur elle-même? Quelle bataille a été perdue par les tenants de cette France progressiste pour que les héritiers de Maurras aient pris autant la parole ces derniers temps?
Bonsoir et merci d'être venu, merci de m'avoir invité. Ce livre, cette exploration de notre passé, c'est une réponse à deux choses d'abord. En premier lieu, une réponse au véritable kidnapping qui a eu lieu ces dernières années, kidnapping du débat sur notre identité, ce qui nous constitue en tant que peuple, notre histoire, notre héritage, notre culture même, par les éléments les plus réactionnaires, déclinistes du débat politique et intellectuel. Et c'est aussi une réponse à l'étrange silence, au silence assourdissant de la gauche intellectuelle et politique sur cette même question, sur la question de ce qui nous fait être un peuple, de notre inscription dans un passé et de la capacité à dégager un horizon collectif pour l'avenir. Et je pars effectivement de cette enquête d'opinion. Alors, il est de bon ton aujourd'hui, à juste titre, de se méfier des sondages quand ils ressemblent à des courses de PMU sur qui sera président dans 2 mois. Mais il y a quand même des enquêtes d'opinion qui sont intéressantes. Et moi, il y a une enquête d'un centre américain qui a fait une enquête mondiale qui m'a fasciné. Cette enquête interroge les gens à travers le monde sur 2 questions. D'abord, comment évaluez-vous votre situation personnelle? Êtes-vous optimiste ou pessimiste vous concernant? Et ensuite, comment évaluez-vous la situation de votre peuple, votre destin collectif en tant que nation? Et alors que la première question sur notre situation personnelle, les Français ne sont pas optimistes puisqu'il y a une crise sociale et économique, une crise politique aussi, ils ne sont pas optimistes sur leur situation personnelle, mais ils sont modérément pessimistes, à peu près comme les autres peuples européens qui rencontrent les mêmes difficultés socio-économiques. Et par contre, donc ils se classent au niveau de la Belgique, un peu en dessous de la Hollande, un peu au-dessus de l'Italie. Et par contre, à la question sur votre destin collectif, eh bien, les Français sont au niveau des Irakiens et des Somaliens. Et donc, ils jugent que leur nation est en train de mourir, que l'horizon collectif est bouché et que l'avenir est une promesse de mort. Et c'est ce décalage entre les deux réponses qui moi, m'interpelle et qui me fait penser qu'en fait, il y a une grande crise en France qui est d'abord une crise mentale, une crise culturelle, une crise morale aussi, et qui est liée à notre incapacité à dégager un horizon de progrès qui s'inscrive dans une histoire. Et le kidnapping de notre identité, du débat sur notre passé par les déclinistes, eh bien, bouche toute possibilité d'horizon. Et donc, si on veut à nouveau pouvoir dégager un horizon collectif, il va falloir se réapproprier ce passé. Parce qu'aujourd'hui, quelle est l'insulte principale ou la critique principale qui vise tant ceux qui veulent se battre pour accueillir des réfugiés qui se noient en Méditerranée que ceux d'entre nous qui sont partisans de la construction européenne? C'est l'accusation d'être hors sol. on vous explique tout de suite, mais vous, vous êtes hors sol. Et donc moi, ce que j'ai voulu faire, c'est replonger dans notre histoire pour rendre à ces principes, à ces combats, à ces luttes, à ces rêves, leur sol. Et leur sol, c'est notre passé, c'est notre culture, c'est notre héritage. Moi, ce qui m'interpelle plus encore que l'existence des vociférations de Zemmour, de Villiers ou Buisson, puisque finalement, à travers notre histoire, on y reviendra, il y a toujours eu des Zemmour, des de Villiers et des Buisson, et parfois des plus talentueux, des plus doués, des plus intelligents, c'est l'absence de réaction à leur discours, l'absence de voix opposée qui propose une vision aussi cohérente et totalement, diamétralement opposée et assumée de ce qu'est la France, de là d'où nous venons et vers où nous allons. Et donc j'ai pensé, après avoir analysé leur discours, qu'il fallait qu'il ne fallait pas se contenter en fait de ce que font traditionnellement aujourd'hui les médias, les intellectuels ou même les politiques progressistes, c'est-à-dire se contenter d'un fact-checking des discours d'extrême droite et des discours réactionnaires, mais qu'il fallait opposer un autre récit à leur récit, qu'il fallait raconter quelque chose de positif aussi sur nous-mêmes, dire que nous ne venons pas de nulle part, que nous ne sommes pas hors sol, que la défense des droits de l'homme, c'est pas une question de bobos, que la construction européenne, c'est pas une affaire de banquiers, qu'il y a dans notre histoire, et pas dans l'histoire des élites parisiennes, dans l'histoire du peuple de France, ces principes qui sont portés et qui travaillent ce qu'on appelle une identité. Et donc, il faut retrouver des événements qui sont à la fois des événements extrêmement connus, comme le jour de la Déclaration des droits de l'homme, le 26 août 1789, ou la nuit du 4 août 1789, mais aussi des événements moins connus, mais qui sont tout aussi importants pour comprendre, voire plus importants encore, pour comprendre comment, par exemple, les droits de l'homme ont façonné notre rapport à notre pays. Un exemple, et je ne vais pas partir dans un speech de 5 heures à la Chavez, mais un exemple, c'est en 1833, la monarchie de Juillet décide d'expulser un Polonais qui s'appelle Joachim Lelevel, de l'expulser pour faire plaisir au tsar. C'était un Polonais patriote, révolutionnaire polonais, réfugié en France. Et la monarchie de Juillet décide de l'expulser. Il habite dans le centre de la France, et à cette époque-là, personne ne le connaît en France. Enfin, je pense qu'aujourd'hui, tout le monde l'a oublié, mais en fait, personne ne l'a jamais réellement connu. Et donc, la police va le chercher dans le centre de la France pour le ramener à la frontière nord de notre pays. Là-bas, il serait remis aux agents du tsar. Eh bien, le cortège de la police met des mois pour traverser la France, et en particulier les régions nord de la France, parce que les ouvriers, par exemple, des filatures du Pas-de-Calais se mettent en grève et bloquent la police. Il y a des combats de rue, sans coup de feu, mais des combats physiques de rue pour empêcher l'expulsion d'un Polonais dont ces ouvriers n'avaient jamais entendu parler. Pourquoi ? Parce que il faut lire les discours de l'époque prononcés par les gens dans les rues, parce que ça remettait en cause, ça mettait en cause notre fidélité à ce que nous sommes, à la France de la Révolution, à la France des droits de l'homme. Et donc, moi, je m'interroge sur cette capacité extraordinaire à penser qu'un Polonais qu'on ne connaît ni d'Ève ni d'Adam peut devenir le symbole de ma relation à mon pays, moi qui suis un ouvrier du Pas-de-Calais. Et que donc, aujourd'hui, la réduction des droits de l'homme au droit de l'hommisme, puisque c'est devenu une insulte aujourd'hui en France, et à une sorte d'attitude bobo vis-à-vis de l'univers, c'est une trahison de notre histoire. C'est-à-dire qu'il y a eu en France des principes qui ont été portés et qui ont façonné ce que nous sommes. Et donc, ce que j'ai voulu faire, c'est réexplorer ces luttes, réexplorer ces moments pour essayer de comprendre ce que nous sommes tous, nous, en tant que Français, qu'on soit d'origine française depuis des siècles ou alors fraîchement adopté par ce destin collectif. Et c'est cette histoire-là qui, me semble, n'était plus racontée. Donc, pourquoi on a basculé ? Parce que c'était votre question. Pourquoi 5 heures plus tard. Pourquoi on a basculé ? Bah justement parce qu'on a arrêté de dire et de faire vivre cette France-là. On a pensé que c'était acquis, que cette hégémonie culturelle progressiste serait éternelle. Et donc, il y a eu une forme d'abandon de poste, de fainéantise, d'endormissement des élites politiques, intellectuelles et morales qui n'ont plus senti la nécessité et l'urgence de faire vivre et de dire ces principes. Et quand on ne dit plus et quand on ne fait plus vivre ces principes, et ben ils s'effondrent. Soit ils sont captés par des gens qui sont opposés et qui leur donnent un sens différent. On pourra en discuter, mais c'est ce qui arrive par exemple quand le Front National distribue des tracts avec la figure de Jaurès ou de Léon Blum. Mais soit ils sont tout simplement oubliés. Et des mots, des principes, des idées se perdent comme ça. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en réalité, une société comme la nôtre, une république, ben, ça ne tient pas tout seul. Ça ne tient que si on la dit, on la renouvelle et on la fait vivre. Et donc c'est ce que j'ai essayé de faire avec ce récit, c'est de redonner à des mots qui semblent aujourd'hui abscons ou absurdes, ou alors résumables à des slogans publicitaires, leur radicalité, leur force originelle.
Le premier exemple que vous donnez, c'est pas un exemple historique, c'est vous opposez deux personnages littéraires. Le personnage du roman de Renard, donc de Renard, que vous opposez à Tartuffe. La tradition du carnaval, qui n'est pas une tradition purement française, mais qui, à travers le roman de Renard, en tout cas, a pris, devient une mythologie qui traverse les siècles. En quoi cette tradition-là forge en fait notre identité ?
Moi, ce que j'ai voulu faire, c'est prendre au sérieux les discours réactionnaires actuels. Et quand ils nous expliquent qu'aujourd'hui nous sommes troublés et qu'auparavant nous savions qui nous étions et nous avions une identité univoque, claire, monochrome, j'ai voulu essayer de comprendre quand nous avions cette idée univoque, monochrome de nous-mêmes. Et en quelque sorte, quand Valeurs Actuelles ou Le Figaro Magazine mettent en couverture un village absolument paisible, photoshopé et totalement idyllique et disent « c'était mieux avant », quand est-ce que la France a ressemblé à ce village ? C'est ça que j'ai voulu savoir. Et en réalité, aussi loin qu'on remonte, la France n'a jamais ressemblé à ce village. Ce village est une vue de l'esprit, un Photoshop de l'esprit. Mais aussi loin qu'on remonte, on trouve ce trouble-là. Et la capacité qu'ont eu les Français à admettre ce trouble, à admettre cette multiplicité, eh bien, ça a fait la grandeur de la France. Et donc, je suis remonté au Moyen-Âge, puisque contrairement à ce que pense la gauche par réflexe pavlovien, l'histoire de France ne commence pas avec la République ou à 1789, c'est bien antérieur à cela. Et au Moyen-Âge, il y a un phénomène culturel fascinant qui est le roman de Renard. Le roman de Renard, c'est de loin l'œuvre la plus populaire de notre histoire. C'est l'ensemble des Français qui se rassemblent sur les places des villes et des villages pour écouter les jongleurs, ces conteurs itinérants qui voyageaient comme ça à travers le pays pour dire les textes et qui écoutent donc les histoires de Renard. Et qui est Renard ? Renard, c'est un animal qui n'est ni un loup ni un chien, qui n'appartient ni à la cour ni à la forêt, qui est profondément inclassable, qui n'est ni de la nature ni de la culture. C'est quelqu'un qui jongle avec les identités, qui jongle avec les multiples facettes de sa personnalité pour affirmer sa liberté. Et l'imaginaire français se constitue littéralement, parce qu'avant c'était un imaginaire complètement éclaté, se constitue littéralement en écoutant les aventures de ce voleur de poules. Et donc je me suis interrogé sur cette chose étrange qui est qu'un peuple s'identifie un voleur de poules, un être inclassable. Tous les autres animaux du roman sont des êtres totalement identiques à eux-mêmes, fidèles à leur nature et à leurs pulsions. Le loup est un loup, l'ours est un ours, le chien est un chien, le lion est un lion. Mais Renard, lui, qui est-il ? Et en réalité, il est capable d'adopter tous les masques et simplement, il est l'identité qui admet qu'elle peut évoluer, qu'elle peut changer. Et c'est devenu un personnage tellement populaire en France, Renard, que l'Église, dans ses règlements intérieurs, interdisait à ses moines de remplacer les images de la Vierge et du Christ dans leurs cellules par celles de ce voleur de poules. Ce qui souligne, à contrario, qu'il le faisait. Et que c'est devenu vraiment un emblème national. Et donc moi, j'ai cherché, comme ça, dans notre histoire, les traces de Renard, les héritiers de Renard, que ce soit à l'époque des Lumières ou des poètes de la Pléiade ou des luttes politiques du XIXe siècle, ou aujourd'hui, quels sont comme ça les héritiers de Renard, cette tradition française qui a pu parler au monde parce qu'elle a aussi admis que le monde était en elle, qu'elle n'était pas une identité pure, figée, éternellement identique à elle-même. Et face à Renard, il y a toujours eu une réaction, un refus de cette identité plurielle, multiple, équivoque. C'est Tartuffe. Tartuffe, c'est l'homme qui, lui, sait qui il est et qui vous assène son identité d'un bloc, de manière extrêmement claire, et qui, comme la société ne correspond pas à ce que lui pense être la véritable nature de la société, eh bien, il se permet, c'est lui qui le dit, c'est l'homme capable de juger le monde comme du fumier. Et Tartuffe, c'est quelqu'un donc qui refuse cette France de Renard et qui va la condamner à mort, mais tous les 10 ans ou tous les 20 ans. C'est-à-dire que, en gros, l'époque décliniste qu'on vit aujourd'hui, au XVIIIe siècle, il y avait déjà les pamphlétaires qui disaient que Voltaire et Diderot, c'était la fin de la culture française, que c'était la mort de la langue, que c'était la mort de la nation, que c'était la mort des traditions. Quand aujourd'hui on considère les poètes de la Pléiade comme étant la quintessence du classicisme français, il faut relire à l'époque les prêches des curés et des pasteurs. Alors pour une fois, les catholiques et les protestants étaient réconciliés dans une même aversion, expliquant que Ronsard, Du Bellay et les autres, c'était la fin de la culture, que c'était la fin de la langue même, et que finalement tout partait à volo parce que ces jeunes poètes voulaient changer la perception qu'on avait de la culture et de la langue française. Et donc j'ai voulu comme ça comprendre l'opposition entre deux traditions françaises, d'un côté la tradition de Renard et de l'autre côté la tradition de Tartuffe, et c'est pour ça que ça s'appelle Notre France. Je veux dire, ce serait complètement mégalo et idiot de d'écrire un livre qui s'appellerait La France. Parce que la France, c'est pas juste ces luttes progressistes, ces luttes humanistes. La France, c'est justement, eh bien, l'affrontement entre Renard et Tartuffe. C'est un clivage permanent, un combat culturel permanent. Et donc, c'est pas un problème en réalité qu'il y ait aujourd'hui les vociférations de Zemmour, de Villiers et Buisson. Ce qui est un problème, c'est qu'il n'y ait pas en face la voix opposée qui débatte et qui s'oppose. Et qui finalement triomphe, puisque dans notre histoire, quand même, les héritiers de Renard ont largement plus souvent gagné le débat culturel et le combat culturel que ceux de Tartuffe. Et c'est un peu le paradoxe de notre époque, où pour la première fois, les héritiers de Tartuffe, de Maurras, de Barrès, eh bien, n'ont pas besoin ni des tanks allemands comme en 1940, ni des troupes cosaques comme en 1814 pour remporter le débat culturel et le combat culturel. Et donc c'est ça qui m'anime, c'est essayer de redonner des arguments à chacun d'entre nous pour faire face à ce basculement culturel qui aujourd'hui menace la France.
Justement, vous proposez 5 syllogismes réactionnaires. Alors sur des thématiques variées mais qui reviennent effectivement souvent dans ce discours-là, les liens du sang, de la terre, les liens religieux, les liens de la langue et de la politique. Et à ces 5 syllogismes, vous les démontez un à un en offrant justement un manuel d'autodéfense que chacun pourrait utiliser à chaque fois qu'il entend justement un de ces syllogismes. Si on prend l'exemple des liens du sang, ce syllogisme serait dans sa première partie « Aujourd'hui nous sommes métissés, notre sang mêlé ne nous parle plus qu'une langue cacophonique désarticulée ». En deuxième partie « Avant, les Français de souche étaient maîtres chez eux, nous avions une généalogie claire ». Notre sang parlait pour nous, de nous, il disait qui nous étions. Et enfin, troisièmement, il faut donc stigmatiser les mélangistes, les remplacistes, tous ces idéologues traîtres à la France, qui, en transformant le métissage en religion et à l'accueil des étrangers en devoir sacré, ont dénaturé notre peuple. Il faut revenir au droit du sang sous peine de disparaître en tant que Français. Qu'opposer à ce syllogisme ?
L'histoire, mais en fait, j'ai lu avec attention. Alors ça a été parfois pénible, mais j'ai lu avec attention les livres qui ont été publiés, qui ont été des véritables best-sellers, sur notre identité, notre histoire, que ce soit ceux de Zemmour, ceux de Villiers, ceux de Buisson. Je les prends au sérieux. Et ce qui m'est apparu à la lecture, c'est qu'en fait, leurs arguments se résument toujours à un syllogisme. Et le syllogisme, que sur n'importe quel sujet, se décline ainsi. Première proposition, qui est de l'ordre du constat. Nous sommes troublés, et ça c'est indéniable. Point 2, or avant nous ne l'étions pas. Point 3, donc il y a des responsables à ce trouble, des boucs émissaires qu'il va falloir sanctionner et expurger. Et il ne s'agit pas de nier le trouble. Le point 1, à mon avis, est inattaquable. C'est-à-dire que ce n'est pas en les reprenant sur leur constat qu'on va s'opposer à leurs arguments. Mais le point 2, qui semble celui qu'on admet le plus facilement, puisque finalement l'histoire, on s'en fout, on ne connaît pas ça très bien, et, or avant nous ne l'étions pas, et bien c'est justement ce point-là qui doit être examiné. C'est ce point-là qui doit être passé au crible de l'histoire, au crible du passé. Et donc il faut reprendre le passé pour faire face aux passéistes. Et donc sur le sang, puisque c'est la version la plus basique de leur syllogisme, leur pensée ne se réduit pas à une pensée sur le droit du sang. Il y a aussi l'État, la langue, la culture. Mais la version la plus basique, quand on entend dans les travées de l'Assemblée nationale des députés qui disent « pour être fidèle aux traditions françaises, il va falloir revenir au droit du sang », la gauche répond généralement « mais vous attaquez là un principe républicain ». En réalité, il ne s'agit pas d'un principe républicain. Il s'agit de quelque chose d'encore beaucoup plus essentiel à l'histoire de France qu'un principe lié à 1789 ou 1792. Il s'agit d'une histoire millénaire en France, le droit du sol. Et donc moi, je remonte et on découvre que, eh bien, en 1315, Louis X, le roi, publie un édit qui dit que chaque étranger qui foule le sol de France deviendra franc. Ce n'est pas encore un code de la nationalité ou un droit du sol proprement dit, puisqu'il n'y a pas le concept de nationalité à ce moment-là. Mais c'est le début de l'aventure du droit du sol, dans ce sens où on conçoit notre appartenance à la nation française non pas comme une lignée, comme une généalogie, mais comme une appartenance à un projet juridique, politique, voire philosophique, puisque franc veut aussi dire libre. Et ça se transforme en 1515, sous François Ier, via le Parlement de Paris, en jus soli, en droit du sol proprement dit. Et depuis, il y a eu des va-et-vient, des allers-retours, mais depuis, c'est la ligne dominante de notre rapport à notre nation. Donc quand on dit, pour être fidèle aux traditions françaises, il faut revenir au droit du sang, mais ça n'a jamais été une tradition française. À la limite, on peut dire que c'est une tradition allemande. Il y a eu en Allemagne cette conception de la nation comme étant une généalogie pendant longtemps. Mais tout cela n'a rien à voir avec nos traditions. Et donc, je pense que l'histoire est une réponse aux délires actuels passéistes. Parce qu'on comprend, en plongeant dans notre passé, que nous n'avons jamais été ces êtres que nos vaillants réactionnaires déclinistes prétendent aujourd'hui défendre. Et donc, voilà, j'ai voulu comme ça essayer de sortir juste des poncifs ou des réflexes pavloviens en disant « vous êtes méchant, vous n'êtes pas progressiste », pour essayer de voir ce qui, en nous, pouvait être une réponse. Moi, je vois bien dans tous les débats à quel point l'assurance de ces penseurs ou de ces politiques d'extrême droite, leur capacité à être sûrs d'eux-mêmes et à projeter une forme d'arrogance même, peut nous inhiber. Et donc moi, ce que j'ai voulu faire, c'est juste essayer de désinhiber ceux qui sentent confusément que leur pays, ce n'est pas l'image que Zemmour ou Le Pen en a.
Que répondre au syllogisme réactionnaire sur la religion? C'est peut-être l'un des sujets les plus délicats actuellement.
Qu'est-ce qui fait la singularité de la France? Puisqu'on est dans un débat sur notre identité, notre personnalité française. Est-ce que c'est d'avoir... On nous explique qu'être fidèle aux traditions françaises, ce serait la nécessité d'inscrire les racines chrétiennes de la France dans la Constitution. Qu'est-ce qui fait cette singularité? C'est pas du tout pour nier l'héritage culturel immense chrétien, mais est-ce que c'est... Notre singularité, c'est d'avoir ce long manteau de cathédrale que en fait, nous partageons avec l'ensemble de nos voisins. C'est-à-dire que ça va être très compliqué d'aller expliquer aux Italiens que leurs églises sont laides et qu'elles sont peu nombreuses. Ça veut dire que, ou même aux Allemands d'ailleurs, même si on peut préférer les églises italiennes, mais il y a comme ça un héritage culturel commun de tous nos voisins et de nous-mêmes. Donc est-ce que c'est ça qui fait notre singularité, ou est-ce que c'est le fait que, avant tous les autres, au XVIe siècle, alors que les querelles dogmatiques entre protestants et catholiques menacent de faire disparaître l'idée même d'une nation française, d'un peuple français, dans une grande guerre civile dont finalement nous portons encore aujourd'hui les stigmates, est-ce que c'est le fait qu'il y ait des gens comme Michel de l'Hospital, c'est un des personnages centraux du livre, eh bien des gens qui affirment un nouveau rapport à ce que veut dire appartenir à un peuple, à ce que veut dire la politique. C'est un discours de Michel de l'Hospital devant les notables du royaume, où il explique qu'il faut passer de la politique des religions à la religion du politique, c'est-à-dire cette aventure qui donne la laïcité, cette aventure laïque de la France. Et alors, puisqu'on est à Bordeaux, et Michel de l'Hospital, eh bien, a un continuateur absolument essentiel, non seulement dans le livre, mais surtout dans notre histoire à nous, c'est Montaigne. Et c'est l'invention de la pensée laïque, de la pensée politique, la définition du politique comme étant une sphère au-delà des querelles dogmatiques ou des affaires privées, et qui est la sphère dans laquelle s'exprime ce que veut dire être français. Et c'est ça notre personnalité, notre singularité. C'est comment on a inventé la politique. La politique en tant que lien entre nous qui soit un au-delà du lien religieux. Non pas contre, mais un au-delà, un au-delà des au-delà. Et c'est cette invention absolument fascinante d'une société qui se définit par la politique qu'il faut retrouver et qu'il faut expliquer. Et ça a des impacts tout à fait contemporains. Par exemple, quand on essaye de définir la laïcité, qui est une question extrêmement actuelle, j'ai été choqué de lire dans certains textes, par exemple, une critique d'une phrase de Clermont-Tonnerre sur les Juifs au moment de la Révolution française. Vous savez, en 1790, il y a... Donc 1789-1790, il y a la première Assemblée nationale française, et elle fait un travail qu'on appelle à l'époque d'émancipation, c'est-à-dire qu'elle accorde à tous les sujets du royaume les mêmes droits. Elle en fait donc des citoyens. Et on n'appelait pas ça ni intégration ni assimilation, à l'époque on appelait ça émancipation. Et donc il donne ça très facilement d'ailleurs aux protestants, aux juifs du sud-ouest, qui sont parfaitement intégrés, mais il y a un tout petit problème qui est le problème des juifs alsaciens. Et là il y a des débats par contre extrêmement violents sur est-ce qu'on peut ou pas donner la citoyenneté aux juifs alsaciens. Parce que les Juifs alsaciens, contrairement aux Juifs du Sud-Ouest, ne sont pas intégrés, extrêmement conservateurs. Regardez leurs mœurs, regardez leur barbe, regardez la manière dont ils traitent leurs femmes. Il y a vraiment ces débats-là, on peut les lire, on peut les voir. Et donc il y a deux camps à l'Assemblée, parmi les révolutionnaires français, sur cette question-là. Et finalement, c'est le camp de l'émancipation générale, guidé par Clermont-Tonnerre et d'autres, qui l'emporte. Et Clermont-Tonnerre a cette phrase, il dit... Tout donner aux Juifs en tant qu'individus et rien en tant que nation. Et j'ai lu des textes récents où des penseurs juifs disent mais c'est une forme d'antisémitisme parce qu'ils ne reconnaissent pas, et les Lumières et les révolutionnaires français ne reconnaissent pas la part de la communauté juive dans l'histoire de France, et donc il n'y a aucune reconnaissance en tant que communauté. Et moi je pense diamétralement l'inverse. C'est-à-dire que je pense que c'est... Déjà, Clermont-Tonnerre ne pense pas aux Juifs dont il se moque quand il prononce cette phrase. Il pense aux guerres de religion et au XVIe siècle, au moment du chaos qui a finalement donné naissance à la France, quand elle a su s'en sortir de ce chaos. Et il a, comme ça, énoncé cette approche laïque et politique de ce que veut dire la France. C'est-à-dire que c'est offrir la capacité à chacun d'être citoyen. De s'élever au-dessus de son environnement immédiat et finalement de faire peuple. Et ça, c'est quelque chose qui est central et qui se retrouve dans toutes les luttes, dans tous les débats politiques au cours du 18e, du 19e et du 20e siècle. Et c'est cet élan politique-là qu'on retrouve. Et si, pour revenir au sondage du début, si les Français sont aussi déprimés quant à leur destin collectif, c'est parce que dans notre pays, plus encore que chez nos voisins, nous avons un culte du politique. Et que donc, quand la politique n'est plus capable de nous dire ce que nous faisons ensemble, quel est notre horizon collectif, eh bien, ce qui est le cas dans l'ensemble des démocraties occidentales, qui sont à peu près toutes en crise aujourd'hui, sauf peut-être notre voisin allemand, mais sinon, on voit le même trouble, eh bien, quand la politique n'est plus capable, on le ressent de manière encore plus douloureuse en France. Parce que la nation française s'est définie d'abord politiquement, comme un projet politique, comme une appartenance politique. Vous savez, il y a une culture allemande avant, et une nation allemande avant qu'il y ait un État allemand. Pareil pour l'Italie, il y a une culture italienne et une nation italienne avant qu'il y ait un État italien, donc un projet politique italien. En France, c'est le projet politique français qui a créé la culture et précédé la nation française. Et donc, c'est cet attachement, ce culte de la politique qui vient de cette période, du Moyen-Âge, puis surtout du XVIe siècle, qui nous rend profondément dépressifs quand la politique n'est plus au poste de commandement, quand la politique ne parvient plus à dégager un horizon collectif, quand les leaders politiques ne trouvent plus les mots pour dessiner cet horizon, et quand elle ne nous définit plus nous-mêmes. Et donc, la chute du politique, on pourrait en parler, mais la chute du politique auquel on assiste depuis 20 ou 30 ans, eh bien, est pour nous une déprime collective. La politique, ça nous touche au plus profond de nous-mêmes. Ça touche le rapport qu'on a à notre nation, à notre être collectif.
Mais est-ce qu'il y a justement une vraie chute du politique ? Est-ce que, parce que les gens se déplacent toujours, certes moins nombreux, pour les élections, mais il y a toujours des commentaires. Si on demande son avis à une personne dans la rue, elle aura toujours un avis à donner sur la politique. L'indifférence n'existe pas totalement sur ce plan-là.
Il n'y a aucune indifférence. Alors, j'ai peut-être pas été clair, mais il n'y a aucune indifférence. Moi, je pense que les gens sont toujours aussi politisés et ont toujours le même désir de politique. Il y a le contraire de l'indifférence. Il peut y avoir de l'aigreur, il peut y avoir de la colère, il peut y avoir de la dépression, mais ça, ce n'est pas de l'indifférence. Il y a très peu de gens qui pensent pouvoir vivre sans politique. Ce qui n'est pas le cas dans tous les pays. Aux États-Unis, il y a 50% de participation à chaque élection. Et ça a toujours été le cas. Parce qu'ils peuvent se définir individuellement sans passer par la politique ou en tant que communauté sans passer par la politique. Ce qui n'est pas le cas en France. Et ce qui est lié d'ailleurs à cette aventure laïque. Oui, il y a une crise du politique parce que... Depuis 20 ou 30 ans, on a résumé la politique non plus à un grand projet de transformation sociale, de transformation de la société, mais à de la gestion et de la communication. Et ça, c'est quelque chose qui est essentiel à comprendre. C'est-à-dire qu'il y a eu la chute du mur de Berlin. Au moment de la chute du mur de Berlin, un intellectuel américain qui s'appelle Fukuyama a proposé une théorie qui s'appelle « La fin de l'histoire ». Et le dernier homme, mais la fin de l'histoire, en expliquant qu'il n'y aurait plus jamais de grands conflits théologico-politiques, que la démocratie libérale, en gros, était définitivement le modèle qui s'était imposé dans les têtes et dans les faits, et que nous allons assister à une généralisation à l'échelle du monde de ce modèle-là. Et à l'époque, tout le monde a plus ou moins critiqué Fukuyama, mais la vérité, c'est que tout le monde a vécu comme si Fukuyama avait raison. C'est-à-dire que moi, j'ai fait Sciences Po. À Sciences Po, on nous apprenait la politique comme la gestion ou le débat comme un débat de communication, parfois brillant, mais à aucun moment, il y avait ce sentiment que la politique était destinée à transformer la société. Or, 30 ans plus tard, on se rend compte de quoi ? C'est que rien ne fonctionne par soi-même, pour soi-même. C'est-à-dire que, eh bien... au lieu de la démocratisation du monde qui avait été promise en 1989, nous assistons à la remise en cause de la démocratie au sein même de l'Occident qui était censé triompher. Donc, loin d'avoir une mondialisation de notre modèle de société, il y a un reflux au cœur même de l'Occident. On le voit aux États-Unis aujourd'hui, mais ce n'est pas seulement aux États-Unis, à travers toute l'Europe. Loin d'avoir une paix éternelle, eh bien, nous avons des scènes de guerre au cœur même de nos villes. salle de concert sur un boulevard à Nice, loin d'avoir une prospérité qui allait de soi, eh bien, nous avons une stagnation, voire un déclassement économique et social. Et du coup, on comprend qu'en fait, la politique est toujours, voire plus importante que jamais. Mais simplement, il y a comme ça un rapport à la politique, en particulier dans l'élite, qui s'est installé et qui ne permet pas de répondre aux crises et aux défis du temps. Parce que fondamentalement, si vous avez été formé à la gestion, une gestion d'une société qui fonctionne par elle-même, eh bien, vous n'êtes pas prêt pour affronter les crises quand rien ne fonctionne par soi-même. Pour être plus précis, je vais juste vous donner un exemple. En 1998, l'Europe entière est ce qu'on appelle rose. C'est-à-dire que c'est le moment des Blair, Schröder, D'Alema, Jospin. Et finalement, il n'y a absolument aucun gouvernement réactionnaire. Et il y a un sommet de l'Union européenne à Vienne, en décembre 1998. À ce moment-là, l'euro est dans les tuyaux. Il y a une forte croissance à peu près partout en Europe, une croissance en tout cas respectable. Il n'y a absolument pas de méga-terrorisme planétaire comme aujourd'hui. Il y a en Russie une puissance faible, mais pas encore cette puissance revanchiste qui vise à guerroyer contre les principes européens. Donc en gros, l'horizon est dégagé. Et les leaders progressistes, il n'y a aucun, aucun Sarkozy, Berlusconi ou pire, Kaczynski, Orban à l'horizon. Et donc on est entre gens bien progressistes, ouverts sur le monde, ouverts sur l'Europe. On se réunit à Vienne. Et il faut lire ce que. Et donc, c'est le moment, si on veut donner du sens à l'Europe, si on veut faire des pas en avant, si on veut concrétiser un modèle social, politique, environnemental, c'est le moment d'agir et de proposer et de débattre. Et il faut lire ce que Massimo D'Alema dit à la sortie de ce sommet européen à Vienne, qui rassemble tous ces progressistes. Il dit : nous avons parlé à 90% du temps des magasins duty-free. Tous les chefs d'État progressistes se réunissent, chefs d'État et de gouvernement, et ils parlent à 90% des magasins duty-free. Ça veut dire qu'ils pensent, sincèrement, que les principaux problèmes politiques et sociaux qui se posent devant eux, qui se posent à eux, sont les magasins duty-free. Ça veut dire qu'ils ont intégré la notion de fin de l'histoire. Il n'y a plus besoin de grands projets, de grands récits, de grands projets de transformation, parce que finalement, eh bien oui, la main invisible du marché va résoudre les problèmes pour nous. Et il y a un sens inéluctable au triomphe des démocraties européennes et des démocraties libérales. Et moi, je compare toujours la démocratie libérale, le système dans lequel on vit, bien à ce tabouret dans un tableau de Caravage. Ça s'appelle Saint Matthieu et l'Ange. Et donc, il y a un dialogue absolument fascinant entre Saint Matthieu qui parle à l'ange, il y a une fusion des drapés, mais au premier plan, on voit qu'il y a un tabouret sur lequel Saint Matthieu s'appuie, et ce tabouret, ben, il est branlant et il menace de tomber d'un côté ou de l'autre. Et la démocratie libérale, qui en soi une antithèse, c'est-à-dire qu'il y a dans démocratie libérale la tendance démocratique qui pose le primat du tout sur les partis, ce qu'on appelle une inspiration holiste ou holistique, qui est la volonté générale, le droit du peuple, la souveraineté populaire. Et de l'autre côté, la tendance libérale, du mot libéral, qui sanctifie l'espace privé et qui est d'inspiration individualiste, qui valorise et qui sanctifie les droits des individus, nos désirs, notre capacité à être ce qu'on veut être, à faire autant d'argent qu'on veut en faire et dans notre sphère privée. Et donc, c'est un équilibre instable, exactement comme ce tabouret, entre ces deux tendances, avec des va-et-vient. De temps en temps, il y a plus de collectifs, de temps en temps, il y a plus de droits et de libertés individuelles. Mais simplement, il faut juste que le tabouret ne tombe pas, ni d'un côté ni de l'autre. S'il n'y a que du collectif, on est au Kampuchea démocratique de Pol Pot, donc on n'est plus dans un système démocratique libéral. Mais s'il n'y a plus d'horizon collectif, de primat du tout, de sens du public, eh bien, on tombe dans un moment d'atomisation sociale et de disparition du politique. Or, c'est ce qui est en train de se produire. nous avons perdu le sens du politique et du collectif. Et donc le tabouret menace de tomber. Et c'est pour ça que c'est extrêmement important pour moi, à la fois l'histoire et la capacité à réhabiliter l'idée même de politique dans notre univers, parce que sans cela, eh bien, nous avons un destin qui est tout tracé, qui est celui du trumpisme. C'est-à-dire que si on n'est pas capable de dessiner un horizon collectif, il y aura à un moment un homme dont le discours peut être erratique, mais qui vous dira « je suis votre être collectif ». Et c'est la bascule dans l'autoritarisme. Et c'est ça l'enjeu, c'est comment est-ce qu'on réhabilite le politique justement pour ne pas tomber dans ce trumpisme, pour éviter que le tabouret tombe et que ce soit un leader, un César qui le relève.
On reviendra sur cette idée du politique sur la fin, mais revenir sur un chapitre qui est particulièrement touchant et troublant, c'est la partie justement sur la France cosmopolite, dans lequel vous écrivez un discours fictif en hommage au héros de l'affiche rouge. Pourquoi écrire ce discours aujourd'hui, et pourquoi ce discours qui aurait pu et qui aurait dû être prononcé suite aux attentats, plutôt que, vous dites, de choisir la déchéance de nationalité comme réponse, comme solution à ceci, pourquoi rendre hommage au groupe Manoukian ?
Déjà, vous savez qu'on est le 21 février et que c'est la date anniversaire donc du jour où sont fusillés les 23 de l'affiche rouge. C'est Gavroche Métèque, qui n'avait ni papier ni sang français, mais qui sont morts pour la France en criant « Vive la France !» Alors même que la plupart d'entre eux, leur famille avait été arrêtée par des fonctionnaires français et qu'eux-mêmes avaient été donnés à l'occupant par des Français. Et donc, je me suis en m'interrogeant en fait sur cette incapacité d'assumer nos principes cosmopolites chez nos leaders politiques, je me suis demandé, mais pourquoi François Hollande, qu'on ne peut pas suspecter d'être xénophobe, n'avait jamais prononcé de grands discours sur la France cosmopolite? Pourquoi, en fait, il n'y avait pas eu de réponse, par exemple, au discours de Grenoble qu'avait prononcé Nicolas Sarkozy sur l'identité nationale? Pourquoi est-ce qu'on n'avait pas la vision opposée qui s'était affirmée avec la même force? Voilà, c'était une quête un peu personnelle, parce que une des raisons pour laquelle j'avais voté moi François Hollande, c'était justement en réaction à ce discours de Grenoble sur l'identité nationale. Et j'ai attendu pendant 4 ans que ce discours vienne. Et ce discours est d'autant plus nécessaire que quand vous avez des jeunes Français qui prennent, nés en France, qui ont été à l'école de la République française, qui prennent leur Kalachnikov pour aller tuer d'autres jeunes Français dans une salle de concert au nom de l'idéologie djihadiste, je veux dire, s'il y a un moment où il faut savoir dire ce que signifie être Français, c'est bien à ce moment-là. C'est-à-dire que non seulement il y a toujours ce désir d'avoir un sens qui vienne de la représentation politique, mais en particulier quand des événements d'une gravité aussi terrible et avec une répercussion aussi profonde pour chacun d'entre nous sur notre rapport à notre nation et à la capacité ou non de notre nation à continuer à être, eh bien, donc cette demande de sens et de discours est d'autant plus forte. Et donc ce discours n'est pas venu, donc j'ai en toute humilité, sans aucune humilité, imaginé ce que François Hollande aurait pu dire. Et je l'imagine qu'au début, comme ça, dans un dialogue avec le premier personnage de l'État, qui est le conseiller en communication. Savoir que c'est devenu un roc dans le système politique, c'est le conseiller en communication, que Euro-RSCG et tous les autres vendeurs de papier toilette et de Coca-Cola sont devenus absolument essentiels au discours politique. Et donc, je l'imagine avec son conseiller en communication, en train de dire « je vais, moi, faire un grand discours sur le cosmopolitisme ». Et alors, le conseiller en communication dit, non, monsieur le président, avec tout mon respect, s'il y a un mot qu'il ne faut pas employer, parce que déjà il est compliqué, et puis en plus il n'a pas bonne presse, c'est celui-là, donc on va peut-être faire un discours sur autre chose. Non, c'est vraiment ce que je veux faire, parce qu'en abandonnant les mots, on abandonne les idées, on abandonne les principes, et je veux réhabiliter ces mots, et je vais panthéoniser l'affiche rouge, les métèques de l'affiche rouge, et faire un discours sur ce que ça signifie pour la France, non seulement l'existence de l'affiche rouge, puis en plus leur panthéonisation. Et là-dessus, conseiller en communication lui explique que, bon, affiche rouge déjà en ce moment, c'est quand même c'est vraiment de la provoque, quoi. Et qu'en plus, avec tous ces noms ultra compliqués à prononcer, ça va pas être simple. Et donc, j'imagine le discours que François Hollande aurait pu faire sur ce que ça signifie, ces jeunes qui ne sont français ni de sang ni de papier et qui meurent pour la France au moment même où tant de gens qui avaient le sang et qui avaient les papiers la trahissent. Et qui est le plus français entre celui au nom imprononçable qui meurt pour notre patrie et celui au nom très prononçable qui la vend aux Allemands? Et donc, c'est cette question-là qui guide. Et c'est une leçon, mais une leçon qui est faite tant à ceux qui disent d'ailleurs les étrangers dehors qu'à ceux qui disent nique la France. C'est une double leçon. Parce que qui pouvait plus avoir envie de dire nique la France que ce jeune juif polonais qui avait vu ses parents arrêtés par des policiers français et déportés. Et lui, il meurt en disant « Vive la France !» Et donc là, il y a une leçon pour tout le monde, en fait, dans cette affiche rouge. Et cette leçon-là, qui est une leçon sur une France cosmopolite, il me semble qu'elle manque. Elle a manqué dans le discours politique. Elle a manqué. C'est lié à la fois à une peur d'assumer et aussi à une méfiance des intellectuels et des leaders politiques de gauche vis-à-vis des grandes histoires, des grands récits, des grands symboles. Parce que pendant trop longtemps, les intellectuels de gauche, autrefois c'était un pléonasme, aujourd'hui c'est devenu une sorte de miracle, si ça existe encore, de contradiction dans les termes. Mais pendant très longtemps, ils ont cru à des mythes révolutionnaires qui ont par ailleurs couvert la mort de millions de personnes dans des camps de concentration. Donc effectivement, il y a une forme de méfiance naturelle vis-à-vis des grands récits, des grandes histoires, parce que quand vous avez couvert le goulag, c'est quand même assez compliqué ensuite de croire à nouveau à des grandes histoires ou à des grands récits. Et donc il y a eu cette idéologie de la déconstruction, mais qui était un moment nécessaire d'émancipation des individus et des pensées par rapport à des mythes et à des dogmes qui étaient dangereux pour notre indépendance spirituelle et physiquement dangereux. Et donc, il y a eu cette période comme ça où la pensée de gauche a réussi à s'émanciper du surmoi marxiste-léniniste et des grandes mythologies révolutionnaires. Et c'est bien, il fallait le faire. Mais simplement, quand on déconstruit des grands mythes, il faut ensuite réécrire des histoires quand même. On ne peut pas juste se contenter du vide. Et on me pose souvent la question sur la différence entre ma génération et celle de mes parents, moi et mes parents. Et c'est une différence d'où on vient et d'où on se place. C'est que si mes parents sont nés dans un univers qui était saturé de sens politique, saturé d'idéologie, avec un trop-plein de sens idéologique et de sens politique et de mythes et d'histoire avec un grand H, et donc leur mission naturelle dans la vie, ça a été de prendre un marteau pour briser des statues et casser des chaînes, briser des chaînes, pouvoir respirer, même coucher, embrasser, dormir seul, quoi, enfin librement, individuellement. Mais simplement, moi, je n'ai pas dans cet univers-là. Moi, je n'ai dans un univers qui est d'abord caractérisé par son vide. Et donc, j'ai besoin, moi, au contraire, de retrouver du sens et non plus de briser des chaînes, mais de retisser des liens. Et c'est ça le travail qui... L'émancipation et la déconstruction ont été des moments de libération, mais ce qui n'a pas été fait, pas assez fait en tout cas, c'est ensuite le travail sur le lien, de recréer un horizon collectif. Une fois qu'on s'est émancipé des grands mythes, soit nationalistes, soit révolutionnaires, il faut ensuite avoir une histoire qui nous relie quand même. Un peuple, ça n'existe pas sans horizon collectif commun.
Pour le retrouver cet horizon collectif, vous proposez en dernière partie de votre ouvrage de réinstaurer un service civique obligatoire, de manière à ce que la jeunesse française puisse se rencontrer autrement que par hasard sur le quai d'un RER ou
dans le meilleur des cas.
Dans le meilleur des cas, voilà.
Non, mais ce qui m'intéresse, en fait, moi, j'ai une obsession, c'est comment est-ce qu'une société cosmopolite comme la France, qui n'est pas naturelle, qui est le produit d'une histoire, un artifice politique. Comment ça tient ensemble. Et Et fondamentalement, ça peut tenir ensemble que s'il y a un récit commun et aussi des structures où les gens se croisent, se rencontrent, se brassent. Quand un jeune qui naît en banlieue parisienne à Trappes ne croise jamais dans sa vie un jeune d'un quartier bourgeois de Bordeaux ou de Paris, et eux-mêmes ne croisent jamais dans leur vie un jeune d'une zone périurbaine de Picardie ou d'un village alsacien, même symboliquement, ils ne se croisent jamais, eh bien, c'est compliqué de faire un peuple. Et il y avait avant une institution qui s'appelle le service militaire, qui a été supprimée, et on a eu raison de la supprimer, parce qu'elle ne servait plus à rien, sauf à couper des patates, et que de toute façon, les gens favorisés ne le faisaient plus, le service militaire. Mais, par contre, je pense que, exactement dans la même lignée que ce que je disais sur la déconstruction des idéologies, ça a été une erreur de le remplacer par rien. Et c'est un point de discussion des fois, parce que souvent dans les conférences, il y a un public très jeune, et donc en gros, je viens de leur expliquer que je vais les faire chier à faire un service civique. Mais moi, il me semble que c'est impossible de tout faire reposer sur l'école, et que si on veut que vivre ensemble, ce soit plus qu'une simple... un simple slogan pour concert de hip-hop, eh ben, il faut à un moment qu'il y ait des institutions qui fassent vivre les gens ensemble, qui fassent rencontrer au moins les gens, qui fassent que, eh bien, il y a un réel brassage dans une génération et dans une société. Et donc, il faut, quand on a un Premier ministre qui dit, qui emploie des mots aussi forts que ghetto pour caractériser la situation française, donc il faut ensuite des institutions, des pratiques sociales et politiques qui brisent les murs des ghettos, qui fassent à nouveau exister un peuple. Et moi, il me semble que là-dessus, comme sur beaucoup de sujets, François Hollande, par exemple, a eu une bonne intuition et s'est arrêté en chemin, n'a pas été au bout. C'est-à-dire qu'il a beaucoup hésité à faire le service civique obligatoire et universel ou simplement volontaire. Et il a dû recevoir des notes de conseillers qui lui disaient que c'était compliqué techniquement, que beaucoup de jeunes n'allaient pas être d'accord et que donc il ne fallait pas le faire. Mais moi, il me semble qu'en maintenant ce service civique volontaire, eh bien, on s'adresse à des gens qui déjà se sentent faire partie de la collectivité nationale, qui déjà veulent servir la chose commune. Et on ne s'adresse pas justement aux jeunes du 16e arrondissement de Paris qui va brûler un abri pour sans-abri parce qu'il ne veut pas de mélange, ou aux jeunes de Trappes qui ne sort jamais de ses murs et qui ne connaît que son environnement socio-culturel immédiat. Et donc, il faut réimposer, à mon avis, les droits du tout sur les partis. On a eu raison, encore une fois, de libérer les partis, de faire en sorte que nos droits individuels soient à ce point célébrés et préservé et progresse. Et moi, je me battrai toujours pour défendre ces droits individuels. Mais il faut, à un moment donné, que le tout ait aussi des droits sur les partis, que nous soyons tous, chacun d'entre nous, appelés à découvrir, à un moment de notre existence, qu'il y a quelque chose au-dessus de nous, qu'il y a quelque chose au-dessus de notre environnement immédiat, qu'il y a quelque chose au-dessus de nos intérêts particuliers. Cet au-dessus, c'est la chose commune ou république, la chose commune, eh bien, elle a aussi des droits sur nous. C'est-à-dire, pour finir, il y a un philosophe allemand qui est sans doute mon cauchemar d'étudiant et pas du tout celui que je préfère, mais qui s'appelle Hegel et qui a des pages très intéressantes sur cette relation du tout au parti et qui dit pourquoi est-ce que les États font des guerres ? Alors, ça semble une question très provocante comme ça, mais pourquoi ? Parce que quand on vit dans l'illusion d'une paix éternelle, chaque partie de la société, que ce soit une communauté, un groupement d'intérêts privés, une entreprise, un individu, chaque partie de la société commence à penser qu'elle est autosuffisante, que finalement, elle n'a plus besoin du tout pour exister, que payer des impôts, c'est insupportable, pourquoi est-ce qu'il existe même des lois, hein, on pourrait très bien vivre comme ça, chacun dans son coin, pourquoi est-ce qu'on m'obligerait à faire ci ou ça, parce que finalement, je suis autosuffisant. Et tout d'un coup, les États déclenchent des guerres chez Hegel pour que chaque partie se rende compte, dans la possibilité même de la mort du tout, qu'elles dépendent du tout, qu'elles dépendent de l'État, qu'elles dépendent du commun, qu'elles dépendent d'un horizon collectif. d'un destin collectif et qu'elles arrêtent de penser qu'elles sont autosuffisantes. Alors, il ne s'agit absolument pas de déclencher des guerres, mais il me semble extrêmement important aujourd'hui, et ça participe de cette question du retour de la politique, eh bien, de réapprendre à accepter une dimension supérieure à mes propres désirs et mes propres droits individuels. Et ça, c'est quelque chose qui est, à mon avis, essentiel pour qu'on puisse continuer à parler de choses communes. Et il y a eu aujourd'hui une sorte de colonisation de l'esprit public par l'esprit individuel. Et c'est très bien que l'individu soit aussi libre que possible. Mais il y a quelque chose qui doit nous lier au-delà de ça. Et par exemple, pour finir, moi, je pense que dans un débat qui a été important à gauche et qui illustre cette démission du politique, le débat entre multiculturalisme et cosmopolitisme. Enfin, ça, c'est pas « et cosmopolitisme », c'est moi qui mets le mot. C'est, pour moi, le multiculturalisme, c'est se contenter de reconnaître qu'il y a plusieurs communautés, plusieurs histoires, plusieurs religions, plusieurs fois, plusieurs traditions sur un même territoire. Ça ne me pose aucun problème, mais on ne peut pas s'arrêter là. On ne peut pas se contenter de cela. Et donc, il faut, c'est ce que j'appelle le cosmopolitisme, il faut reconnaître cela, célébrer cela, et écrire ensemble quelque chose qui transcende cela. Ça s'appelle la politique. Et écrire quelque chose en commun qui permette de sortir de simplement cette reconnaissance d'une diversité. Et c'est comme ça qu'on fait peuple ensemble. Et c'est ça qui est la mission de la politique, mais pas seulement la politique au sens de la politique institutionnelle et des partis. C'est ce qui était porté par des institutions. Alors, le service militaire, mais aussi des grands partis politiques de masse, des syndicats de masse, des églises même, et qui aujourd'hui, toutes ces institutions sont en crise. Et donc, à quel moment on se dépasse dans un horizon citoyen ? Si les partis politiques sont en crise, si les syndicats sont en crise, si les églises se vident, si, à quel moment il y a ce sens collectif qui permet justement d'avancer vers quelque chose qui nous dépasse ? Et pour finir sur une belle note, cette réponse trop longue, il faut relire les pages de Simone Veil, pas la ministre, la philosophe, avec un W, sur les grèves de 1936. Elle dit quelque chose qui, moi, me fascine. Elle dit, plus encore que des revendications sur tel ou tel droit ou telle augmentation salariale, il y avait tout d'un coup une forme de joie chez les êtres humains qui participaient à ces grèves. Pourquoi ? Parce que, pour la première fois sans doute de leur existence, dit-elle, ils avaient l'impression de ne plus appartenir simplement à eux-mêmes et à leur misère, mais d'appartenir à quelque chose qui les dépasse. Et c'est ça qui est pour moi essentiel, c'est comment est-ce que la politique doit nous rendre à nouveau capables d'appartenir à quelque chose qui nous dépasse. Et ça, c'est à mon avis la grande mission des années qui viennent.
Merci beaucoup Raphaël Glucksmann.
Merci.